France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Zaya Ziwani, je suis née le 27 juin 1978 à Paris et je suis chef d'orchestre.
Bonjour Zaya Ziwani.
Bonjour.
Et merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Alors vous êtes ce qu'on pourrait appeler une femme d'influence, vous êtes chef d'orchestre, on l'entendait, mais vous êtes aussi chef d'entreprise, pédagogue, militante, passionnée, opiniâtre. Difficile d'être exhaustive tant en un peu plus de 40 ans vous avez accompli. Livres, documentaires et bientôt films rendent d'ailleurs hommage à votre parcours et concourent ainsi à faire de vous une icône. Alors, est-ce que cela est facile à porter? Nous avons tout le temps d'en discuter ensemble. L'exigence comme réponse à l'adversité, croire en soi comme mantra, deux valeurs que vous semblez avoir reçues en partage dès le berceau, Zaya Ziwani. Il nous faut en riant instruire la jeunesse, écrivait Molière. Je pense que ça, c'est quelque chose qui vous parle, non?
Ah oui, parce que pour moi, je trouve que c'est très important de partager sa passion déjà et puis cet engagement que j'ai. Alors moi, j'essaie toujours de me souvenir un petit peu de ces premiers moments où j'ai découvert la musique et qui ont été des moments magiques. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, moi, de vivre ces moments-là dans le cadre familial, de le vivre avec mes parents qui justement étaient très présent dans cette découverte de la musique et du monde d'une façon générale. Et c'est vrai que quand j'ai réfléchi à quel chef d'orchestre j'avais envie d'être au XXIe siècle, quelle musicienne j'avais envie d'être, c'est vrai que j'avais du mal à ne pas accorder une place importante à toute cette partie-là, à la transmission, à l'engagement. Et moi qui ai grandi dans un quartier populaire de Pantin, c'est de croire dans ses rêves, c'est d'avoir eu accès à la culture, aux beaux, aux émotions, de pouvoir rêver, qui m'a permis de réaliser mes rêves et de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc je trouve que tous les enfants méritent de pouvoir vivre ça, de pouvoir rêver, d'avoir accès aux beaux, aux émotions. Et donc c'est pour ça que ça prend une partie importante de ma vie aujourd'hui musicale, cette notion de transmission.
Vous êtes née à Paris, c'est vrai, arrivée à Pantin très vite dans vos toutes premières années. Vous avez une sœur jumelle d'ailleurs quand oui. Vous débarquez à Pantin. Je ne sais pas si votre petit frère est déjà né, mais en tout cas vous êtes au moins deux avec vos parents à venir vous installer là. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui.
Oui, à Pantin. Et alors j'avais un tout petit peu plus de 2 ans et mon frère venait de naître en effet. Et donc je suis née à Paris dans le 14e arrondissement à l'hôpital Notre-Dame de Bon Secours, qui était à l'époque encore tenue par des sœurs. Et donc, on est né là-bas avec ma sœur. Et assez rapidement, mes parents avaient envie d'avoir, quand mon frère est arrivé, un domicile un peu plus grand. Donc, on est venu ici à Pantin. Et pas très loin d'où j'habite. En fait, j'ai toujours habité dans la même rue. Simplement, on était dans un immeuble, le trottoir d'en face de là où j'habite aujourd'hui. Et c'était un des premiers grands immeubles, tels qu'on les voit beaucoup dans le paysage urbain de la Seine-Saint-Denis. Autour, il y avait encore beaucoup de terrains vagues. Et j'ai un très lointain souvenir encore de ma mère qui venait nous chercher à l'école maternelle et où parfois on allait voir autour, il y avait encore des fermes avec des vaches. C'était quand j'avais 3 ans, donc il y a un petit moment maintenant, mais ça existait encore. Et donc c'est vrai que c'est un coin qui faisait encore un petit peu village, un petit peu presque un peu campagne. Et en même temps, aussi dans ces quartiers très populaires et très urbains, tels que maintenant on les conçoit. Donc j'ai vu aussi tout cet environnement évoluer, changer. Et on est à Pantin, pas très loin de la Philharmonie. Donc j'ai vu aussi s'installer la Cité de la Musique, le Conservatoire supérieur de Paris, la Philharmonie. Donc cet endroit, qui respire la musique, la culture. C'est rigolo que ça soit presque eux qui soient venus pas loin de chez moi. Et donc je suis très heureuse de continuer à habiter là pour tout ce que ça représente, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, que ça reste un quartier populaire dans lequel je me sens bien aussi, avec toutes les diversités dans lesquelles j'ai grandi et puis que j'aime aussi hein, de notre société, qu'elle soit sociale, culturelle, intergénérationnelle. Et ça me permet un petit peu de rester en contact avec le monde. Tous ces endroits-là sont aussi mon propre univers à moi, en fait.
Alors, ces parents que vous avez sont vraiment pour beaucoup aussi, évidemment, dans votre vocation, parce que sans doute qu'ils ont su faire fleurir, comme vous le disiez, hein, la conjugaison du beau et toutes ces choses-là qui, finalement, qui vous ont fait partager avec votre sœur et votre frère très vite. Qui sont-ils, vos parents ?
Bah oui, en effet, c'est vrai qu'ils ont une place importante hein, dans ma vie, déjà, et puis dans mon parcours. Et c'est vrai que... c'est pas forcément toujours simple de trouver un bon équilibre quand on est artiste, quand bon en plus dans le métier de chef d'orchestre nous amène à aller aussi beaucoup voyager, diriger des orchestres en France, à l'international. Donc moi-même qui ai maintenant une fille, je sais que la vie familiale a une place importante dans mon cœur, dans ma vie, et c'est un équilibre dont j'ai besoin pour pouvoir être une bonne chef d'orchestre. Et cette notion de la famille, mes parents l'ont beaucoup aussi entretenu. Hein. Ils sont venus d'Algérie, mon père en 62 et puis ma mère un peu plus tardivement, en 77, avec à la fois un déchirement de quitter le pays où ils ont grandi, leur famille, et puis en même temps aussi cette envie d'aller conquérir quelque part aussi un autre pays, une nouvelle vie qui les attendait. Et puis on est arrivé pas longtemps avec ma sœur jumelle. Donc c'est vrai qu'on est arrivé à deux, mon frère pas longtemps aussi après. Donc c'est vrai que mes parents nous ont toujours élevés avec ce sens de la famille et puis de cette ouverture en fait, parce que on a grandi en ayant toujours ce repère de nos racines d'Afrique du Nord, d'Algérie, le lien avec la famille, et puis en même temps de grandir avec les valeurs aussi de la culture aussi française, de cette république dans laquelle on a grandi, qui nous a aussi offert beaucoup. Donc c'est vrai que ce sens de l'ouverture et de la curiosité, ça vient beaucoup de mes parents, et je pense que c'est aussi quelque chose qui les a rassemblés. Enfin, je pense qu'on se rencontre pas comme ça par hasard, et mes parents, ils sont tous les deux très curieux. Ma mère, bon, voilà, en Algérie, elle a fait partie des premières femmes qui ont travaillé dans l'administration algérienne après l'indépendance. Donc, elle avait quand même aussi une certaine autonomie. Elle était aussi très engagée. Voilà, elle prenait beaucoup d'initiatives là-bas. Mon père, lui, il est arrivé en France un petit peu par hasard.
Comment il arrive en 62 ? Donc, c'est le premier, vos parents. Oui. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, mais peut-être que ce n'était pas complètement à ce moment-là. C'est quelques années après.
Exactement, c'est un peu après. Et je crois que mon père, en fait, il avait envie de découvrir un peu le monde. Alors, il s'avère que c'est vrai que c'est une date qui n'est pas anodine, hein, parce que c'est juste après l'indépendance. Il est venu en France. Donc, c'est un contexte qui n'était pas facile non plus. Mais voilà, il a aussi d'excellents souvenirs en venant en France, d'être bien accueilli par aussi des communautés algériennes et kabyles qui l'ont accueilli, et aussi avec plein d'amis français qu'il a eus. Et donc, en fait, je crois qu'il a toujours, sans faire de différence, sans faire de assez simplement, il a commencé à évoluer dans cette société française. Et mon père, qui est très curieux, il a commencé à se dire, tiens, moi, je viens dans un pays que je connais bien, mais il parlait très bien français, mais il connaissait pas forcément bien d'autres choses. Donc, il a commencé à écouter France Culture, à lire Le Monde. Et mon père, il a grandi dans une montagne en Kabylie, en Algérie, où malheureusement, il a pas pu aller à l'école. Donc, il avait vraiment soif, en effet, de découvrir le monde d'avant, le monde dans lequel il était. Et puis, je pense que cette curiosité, cette soif d'apprendre, elle nous vient aussi de là. Et je pense que mes parents, qui tous les deux avec, ils ont aussi des enfances difficiles. Pendant la guerre d'Algérie, où ils ont connu la famine, ils ont connu les difficultés, la guerre. Donc je pense que ça remet beaucoup de choses en perspective. Et donc ils ont été rassemblés par cette soif d'avoir envie de découvrir le monde et puis de vivre simplement, mais dans le sens beau du terme, en fait. De se dire que l'essentiel, c'est pas forcément de se construire une richesse avec beaucoup d'argent, mais que cette richesse, elle, c'était aussi le savoir et l'instruction. Depuis que je suis enfant, mon père, il nous a dit toujours ça, que la richesse, c'était ça, c'était d'être instruit. Et donc, quand on était petit, mon père, il nous faisait lire le monde tous les jours. Même quand on était petit, on a appris à lire sur le monde. Alors, on comprenait pas toujours ce qu'on lisait. Mais voilà, et c'est ça qui, je pense, est quelque chose d'assez fort. Et tout ce qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient jeunes, je pense qu'ils ont essayé de nous permettre, en tout cas, de le réaliser le plus possible. Et donc, mes parents, ce sont aussi deux... Alors, ça fait plus de 40 ans qu'ils sont mariés. Ils sont tout le temps en train de rigoler, de se chamailler un peu aussi, mais de rigoler. Enfin, voilà, et c'est des gens qui savent prendre le bon côté de la vie. Et du coup, ça, c'est un précieux enseignement qu'on a reçu aussi de leur part.
Votre mère, elle est kabyle aussi, ou ils viennent de la même région ou pas ?
Pas du tout, non, ma mère, elle est d'Alger, voilà, c'est une famille algéroise, donc mon père de Kabylie et ma mère de la région d'Alger.
Et votre mère, donc, est allée à l'école, alors que, enfin, je dis ça en pur, mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément cette génération-là, toutes les petites filles allaient à l'école, ou je me trompe ?
Non, en effet, toutes les petites filles n'avaient pas l'opportunité d'aller à l'école, et donc mes grands-parents, qui aussi étaient, qui étaient plutôt des agriculteurs, mais aussi très dégourdi, très voilà, à l'époque, voilà, ma mère, elle a grandi dans une famille nombreuse, fallait se débrouiller aussi pour mon grand-père, comme ma grand-mère d'ailleurs, avait envie que les enfants puissent aller à l'école, et à l'époque, malheureusement, l'école était pas forcément toujours ouverte à ce qu'ils appelaient à l'époque les indigènes, en fait, les enfants algériens n'avaient pas le droit d'aller à l'école, c'était que les enfants français. Et donc, je sais que mon grand-père et ma grand-mère ont réussi à se battre pour que, leurs enfants puissent quand même aller à l'école. Et donc, c'est comme ça que ma mère, elle a pu... Et je pense que cette force aussi de caractère, elle vient aussi, voilà, de mes grands-parents. Et c'est pour ça que je dis souvent que... Parfois, on me demande si j'ai eu des modèles dans la vie. Alors, oui, c'est vrai que parfois, on peut penser à des grands artistes, des grands chefs d'orchestre. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, quelque part, d'être un peu dans la continuité de cette lignée de femmes aussi très fortes, avec beaucoup de force de caractère, à ceux qui se sont battus. Et ma grand-mère, elle faisait partie de ces femmes-là, ma mère aussi. Donc voilà.
La mère de votre mère.
Voilà, tout à fait, voilà. Et même la mère de mon père, d'ailleurs, aussi, qui était une femme superbe. Et c'est vrai qu'on a eu des beaux modèles dans la famille aussi.
Et donc, une sœur jumelle.
Exactement. On est arrivées toutes les deux. Et je pense que c'est la vie, elle fait pas les choses par hasard, je pense. Et c'est vrai que c'est ma sœur jumelle, Fethouma, on forme une équipe aussi toutes les deux, depuis qu'on est nées, en fait. Elle comme moi, d'ailleurs, on s'est toujours dit, quand moi je grandissais, je me suis toujours dit, comment ils font les gens qui sont tout seuls, qui naissent tout seuls? Parce qu'en effet, on en a tiré aussi une force, une complicité. C'est comme une vie de couple, hein, avec parfois ses difficultés, mais aussi ses forces. Et nous, on a essayé d'en faire une force qui nous a amené toutes les deux à traverser aussi des moments difficiles, à essayer de combattre parfois des préjugés, des résistances que l'on a rencontrées dans notre vie personnelle, dans notre vie scolaire, d'études, musicales aussi. On fait beaucoup de projets ensemble, beaucoup de projets séparément aussi, parce qu'on aime bien aussi avoir chacune nos propres trajectoires. Avec ma sœur jumelle, voilà, on est un duo de choc. Thank you.
France Musique, les grands entretiens de Zaya Ziwani.
Quelle langue on parlait à la maison dans votre enfance? Est-ce que la langue arabe est la langue de l'intime, par exemple? Est-ce que, au contraire, on mettait un point d'honneur à parler français? Quel est le rapport?
En fait, nos parents nous ont toujours parlé français. Et c'est un petit peu le regret, d'ailleurs, de mes parents et puis surtout de nous, en fait, de pas avoir pu pratiquer plus la langue arabe. Alors après, bon, il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. C'était une époque où, en effet, mes parents sont venus d'Algérie avec ne sachant pas si on allait retourner en Algérie ou pas, mais en même temps, en essayant de se projeter malgré tout dans un futur ici en France. Et puis, avec aussi une époque où il y a beaucoup de personnes, des pédiatres notamment, qui leur ont dit si vous parlez arabe à la maison, elles auront peut-être des problèmes d'intégration, d'apprentissage du français. Donc, c'est vrai que on a toujours parlé français. Et puis, mes parents parlent un français, comme d'ailleurs ma grand-mère ou certaines personnes en Algérie, un français, mais vraiment... parfait. Moi, j'adorais écouter ma grand-mère parler français parce que elle parlait sans peut-être les évolutions de la langue, parfois un peu familière qu'on peut nous avoir. Donc, c'est un français qui est parfois très académique. Et mes parents, en plus, sont pas très typés. Donc, quand vous les voyez, tout le monde pense que c'est des Français. Même quand ils vont en Algérie, les gens parfois les abordent en leur parlant français tellement ils pensent qu'ils sont pas du tout d'Algérie. On a toujours parlé français à la maison avec mes parents. Et en fait, avec ma sœur et mon frère, nous, on a appris à l'arabe en les écoutant parler arabe entre eux. En allant en Algérie, donc moi je comprends l'arabe, je le parle pas vraiment, mais ça reste un regret, de pas avoir pu apprendre vraiment à le parler. Mais en tout cas, on parlait français à la maison, ça c'est sûr.
Et alors à la maison, il y a France Culture, des disques aussi. Comment est-ce que la musique classique arrive dans la famille?
Écoutez, de façon concrète, je crois que je peux pas vous dire la première fois que j'écoutais de la musique, tellement ça a toujours fait partie de ma vie en fait. Moi, je sais que papa nous a raconté cette anecdote parce que il habitait, lui, dans le 8e arrondissement. Il travaillait aussi dans le 8e arrondissement. Il habitait pas très loin de la salle Pleyel. Donc, il passait devant à chaque fois pour aller travailler. Il nous racontait qu'un jour, il a décidé de rentrer dans la salle, d'aller écouter un concert. Il nous a raconté cette histoire parce qu'un jour, dans ses affaires, on a retrouvé une coupure de presse. Je sais pas si c'était au moment d'un déménagement ou peu importe. Et donc, une coupure de presse d'un concert qu'il avait été voir. Et c'est un concert d'un trio et où il y avait, si je me trompe pas, Richter au piano, Rostropovitch au violoncelle. Et il me semble qu'il y a eu Diminuine au violon. Donc, une affiche de rêve, en fait. Et donc, quand on a vu ça, c'est aujourd'hui, tout le monde rêverait de voir un concert avec ces trois grands artistes. Et donc, il nous a parlé de ça. Et c'est vrai que ça fait partie de ses curiosités, de ces choses qui, quelque part, font sa singularité aussi à notre papa. Donc, lui, il a commencé à aller au concert. Et puis, donc, du coup, il écoutait de la musique à la radio. Et donc, il a commencé à acheter des vinyles. D'ailleurs, que j'ai certains que j'ai encore ici, là même dans mon salon. Et donc, c'est comme ça qu'il écoutait de la musique. Et quand il a rencontré ma mère et qu'ils ont emménagé ensemble, ils écoutaient ensemble de la musique. Et donc, même notre papa, souvent, il raconte ça aussi avec notre maman en rigolant, parce qu'il disait que comme ma mère, quand elle était enceinte de nous, la pauvre des jumelles, elle a été alitée longtemps pendant la grossesse. Donc, elle écoutait souvent de la musique à la maison. Et qu'il disait, même, elle m'a rayé les disques parce que tellement ils ont été utilisés. Donc, c'est vrai que, même dans le ventre de notre maman.
C'est ça, vous avez été bercée.
Voilà, aux symphonies de Mozart, aux symphonies de Beethoven, aux opéras, aux cantates de Bach. Donc, en fait, depuis qu'on est né, on a toujours eu de la musique à la maison. Là où peut-être ça a été un peu différent, c'est que, assez rapidement, en fait, depuis qu'on était petit, on a été aussi visiter des musées, même voir parfois des concerts. Donc, mes parents, ils avaient aussi quelque part cette initiative de se dire, on va pas se contenter juste de l'écouter à la maison, mais de nous amener un petit peu à la rencontre de ces œuvres musicales, de ces œuvres. Et c'est ça que je trouve assez fort aussi par rapport à leur parcours, par rapport à leur vie. Et donc, la musique a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. mère nous avait emmené voir à l'opéra à Paris la flûte enchantée. Donc j'ai un souvenir de, voilà, de cette flûte enchantée. Sachant que c'est vrai que pour moi, les deux opéras que... On écoutait tout le temps les Noces de Figaro aussi à la maison. Donc les opéras de Mozart, c'était un monde fascinant. Et donc cette flûte enchantée, en effet, j'en ai un très beau souvenir. Une autre fois aussi, mon père, il avait trouvé, il nous a dit, tiens, j'ai entendu à la radio qu'il y a Georges Prête qui donne un concert. Alors, c'était un concert symphonique à l'opéra aussi. C'était, alors on était un petit peu plus âgés, mais bon, on était quand même assez jeunes. Et c'était un des premiers concerts qui se donnait à l'opéra Bastille. Et donc là, l'orchestre de l'opéra donnait un concert en version symphonique, ce qui était assez rare déjà aussi à l'époque. Et donc, j'ai un souvenir d'avoir écouté, il y avait des danses hongroises de Brahms, il y avait un répertoire aussi avec la valse, je crois, de Ravel. En tout cas, voilà, de ce très beau concert qu'on avait partagé avec mon père un soir de semaine, ce qui était rarissime parce que nos parents, ils étaient vachement à cheval sur l'éducation. Donc, nous, on était couchés très tôt. Et là, si je me souviens, un soir de semaine, on a été écouter de la musique à l'opéra. Et puis, de temps en temps, il y avait aussi des concerts. Alors, un petit peu plus tardivement, à partir de 7-8 ans, comme on a intégré le conservatoire de Pantin par la suite, je sais que régulièrement, certains professeurs donnaient des concerts. Et donc, dès qu'il y avait des concerts de profs, notre maman nous emmenait tous les voir. Donc, c'était beaucoup de musique de chambre. Donc, et j'ai un souvenir d'un quintet à deux violoncelles de Schubert qui m'avait marqué tellement c'était beau. Et je sais que ça fait partie de ces petits moments magiques où je me suis dit, c'est un univers dans lequel je me sens vraiment bien, en fait, la musique.
Vous dites que vos parents étaient très exigeants scolairement, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait.
Exactement. Il y avait une vraie pression de ce côté-là
Oui, alors une vraie exigence, c'est vrai. Une pression aussi, oui, parce que voilà, ils voulaient qu'on travaille bien à l'école. Et je crois qu'il n'y avait pas de sujet là-dessus. Alors bon, voilà, on a grandi dans un milieu modeste, mais on n'a jamais manqué de rien. Et c'est vrai que c'était quelque chose de très important. Ma mère, même si elle a pu aller à l'école, mais bon, je sais qu'elle aurait peut-être aussi aimé avoir d'autres opportunités. Et mon père, lui, n'ayant pas été à l'école, pour eux, c'était quelque chose de non négociable. Il fallait bien travailler à l'école. Donc, c'est vrai qu'ils étaient, exigeants de ce point de vue-là. C'est pas facile, de venir s'installer dans un autre pays, surtout dans cette période après l'indépendance de l'Algérie. C'était aussi une période où il y avait beaucoup de racisme, où c'était vraiment pas facile. Donc, je sais que mon père, parfois, il avait un petit peu ce discours de nous dire, voilà, vous savez, parfois, peut-être que vous serez à des endroits où on vous attendra pas, donc, faudra être bien armé. Donc, il n'y a qu'une solution, c'est d'être instruit, de bien travailler à l'école. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était une ligne de conduite. Mes parents, ils étaient assez sévères sur ce point, oui. Thank you.
C'est sur cet adagio du quintet Deutsch 956 de Franz Schubert que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec Zaya Ziwani. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Yves Lehors, mixage Philippe Thibault, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.